Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par le refus de soins. Pour qu'un soin puisse se dérouler, les soignants commencent par informer le patient sur les choix thérapeutiques, sur les enjeux et les conséquences des traitements. Et à partir de cette information, les soignants cherchent à recueillir le consentement du patient. Cette question du consentement n'est pas une simple formalité administrative, puisqu'elle est le point de départ d'une construction du projet de soins, de l'engagement dans le parcours et finalement d'une relation de confiance et de collaboration qui permettent aux soins de prendre tout son sens à la fois pour le soignant et pour le patient. Ce recueil du consentement ne peut avoir une telle importance et une telle signification que parce qu'il renvoie le patient à son choix autonome. Cette autonomie dans la réflexion et dans la délibération est la condition fondamentale de la dignité humaine pour Emmanuel Kant. Respecter l'autonomie du patient, respecter sa capacité à consentir, revient ainsi à soigner en donnant une place digne au patient. Pour consentir aux soins, il faut donc faire usage de sa raison, penser et comprendre les informations qui sont délivrées, se les approprier. Et le patient peut donc soit consentir, soit ne pas consentir. Mais que se passe-t-il si le patient ne consent pas, c'est-à-dire s'il refuse un soin ? Que se passe-t-il si son appréhension de sa situation de santé et des traitements lui paraissent contraires à son propre bien ? Que ce soit en raison de croyances personnelles, de peurs, de méconnaissances ou parfois même de facteurs sociaux et culturels, de nombreux patients se questionnent quand il s'agit d'accepter un traitement médical. L'autonomie peut être remise en question si le patient est vulnérable ou influencé par des facteurs extérieurs comme des croyances religieuses, culturelles ou familiales. Le refus d'un traitement qui pourrait être bénéfique au patient met le soignant dans une situation difficile, lui donnant un sentiment d'impuissance et d'incompréhension. En raison de ses compétences et de son expertise, le soignant prévoit les souffrances inutiles ou la dégradation de l'état du patient que ce refus va provoquer. Si le patient refuse un soin, va-t-il être abandonné par les soignants ? Y a-t-il des situations dans lesquelles les soignants peuvent aller à l'encontre du refus de soins exprimé par un patient ? En quoi de telles situations pourraient rompre l'alliance thérapeutique ? Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Théron, qui est professeure de droit public spécialiste du droit de la santé à l'Université Toulouse-Capitole, Gilles Bourgade, qui est infirmier en pratique avancée en oncogériatrie au CHU de Toulouse, et Sophie Guglielmoni, qui est psychologue en libéral et en institution pour la protection de l'enfance. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le refus de soins. Sophie Théron, je me tourne vers vous pour savoir s'il y a des situations dans lesquelles le soin est obligatoire, c'est-à-dire qu'il peut être pratiqué sans rechercher le consentement du patient. Tout à l'heure, on a parlé des situations dans lesquelles le patient ne pouvait pas s'exprimer, mais on pourrait aussi parler des urgences. Alors, il y a un cas en particulier beaucoup commenté par le droit, qui est celui des témoins de Jéhovah, qui refusent les transfusions sanguines, par exemple. Ça, c'est une confrontation régulière dans les situations d'urgence.
Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, de manière générale, oui, il existe quelques hypothèses où le soin est obligatoire, mais il n'y existe évidemment pas d'obligation générale de se soigner en raison du principe de l'intégrité et de l'indisponibilité du corps humain.
D'accord.
Après, il y a différentes hypothèses qui posent difficultés, et notamment, vous soulignez celle qui est très complexe de l'urgence, ouais. Et plus particulièrement de l'urgence vitale. Et on a déjà évoqué ensemble la question de la temporalité. Et c'est ça qui est fondamental, en fait, parce que la question de l'urgence vitale, c'est une notion qui est médicale, et juridiquement, par contre, ce n'est pas une notion juridique.
Donc, ah, d'accord.
Le droit essaye de l'appréhender et d'en tirer, finalement, des conséquences. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs types d'urgence, en fait. Il y a l'urgence où on ne peut pas attendre. Mmh. Et là, le soignant va être obligé d'intervenir avec le risque de non-assistance à personne en danger.
Et oui. Mmh.
Surtout lorsque le patient ne peut pas, enfin, on ne peut pas s'adresser au patient, hein, un coma suite à un accident de voiture, par exemple.
Oui, voilà. Bon,
là, c'est... Mmh. En revanche, vous évoquez la question des transfusions sanguines. Là, elle est beaucoup plus sensible, puisque la transfusion sanguine, le patient peut avoir été informé, peut avoir eu le temps de vraiment refuser. Et là, désormais, le texte, et on y reviendra peut-être, a quand même évolué entre 2002 et aujourd'hui, notamment depuis 2016, où jusqu'en 2016, il était précisé qu'en cas d'atteinte à la survie du patient, en cas de refus qui porterait atteinte à sa survie, le médecin devait tout mettre en œuvre pour convaincre le patient. Et aujourd'hui, cette disposition n'existe plus. Ce que prévoit le législateur, c'est que si le refus du patient met en jeu sa survie, il doit réitérer sa décision dans un certain délai et il peut faire appel à un autre membre du corps médical.
D'accord.
Bon, et là, il y a eu des jurisprudences assez récentes. Hein, je ne vais pas entrer dans les détails sur les témoins de Jéhovah, mais lorsque le refus est clair qu'il a été réitéré dans des directives anticipées, le médecin doit respecter cela. Bon, il y a eu une jurisprudence où justement il y avait deux temps. Il y avait la question pour cette personne à la fois de l'urgence vitale où il y a eu une première transfusion et la responsabilité de l'établissement n'a pas été mise en jeu. Et ensuite, il y a eu une seconde en revanche. Qui était plus problématique.
Où ça changeait, les circonstances avaient évolué.
Donc ça, c'est le premier cas sensible de l'urgence vitale, où il peut y avoir une obligation d'intervenir de la part du médecin. La seconde grande hypothèse, je dirais, où là, on met à l'écart le consentement, c'est en matière de psychiatrie. Où là, c'est vraiment la seule discipline médicale où il existe des soins psychiatriques sans consentement, c'est-à-dire lorsque les troubles de la personne l'empêchent de consentir, ne lui donne pas la capacité de consentir, où elle se met en danger. C'est les soins à la demande d'un tiers. Il y a aussi l'hypothèse, toujours des soins psychiatriques sans consentement, où les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent l'ordre public. C'est les soins sur décision du représentant de l'État. Il peut y avoir aussi des soins sur décision de l'autorité judiciaire.
Oui.
Qu'il faut distinguer, là, ces soins psychiatriques sans consentement, il faut les distinguer de l'injonction de soins ou de l'obligation de soins. Où le patient peut refuser, sauf que s'il refuse, il y aura des conséquences pénales pour lui.
Voilà. D'accord,
mais c'est pas tout à fait la même chose. On pense aussi, quand on parle obligation de soins, aux vaccinations obligatoires.
Oui, tout à fait.
Là, dans l'intérêt public, hein, c'est en fait là la confrontation des principes d'autonomie et de solidarité, où la solidarité prime. Avec certaines conséquences, si alors il y a plus de sanctions pénales à proprement parler dans le cas de certaines vaccinations obligatoires, mais il y a des conséquences que l'on a connues d'ailleurs assez récemment. En matière de refus de vaccination obligatoire. Et on pense aussi parfois aux maladies contagieuses. Maladies contagieuses, il faut, pour certaines d'entre elles, faire une déclaration. Hein. Les autorités doivent transmettre aux autorités sanitaires l'existence de ces maladies.
Donc il y a beaucoup de cas particuliers, finalement.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Mais quand même, la seule grande hypothèse où on peut dire de manière frontale qu'on met à l'écart le consentement, c'est quand même les soins psychiatriques.
D'accord.
Où il existe vraiment des hypothèses là très détaillées de soins psychiatriques sans consentement où il y a une négation du consentement, une mise à l'écart du consentement du fait de l'état pathologique de la personne.
Mais c'est probablement, j'imagine, quelque chose qu'on peut retrouver dans des situations de personnes démentes dans le grand âge.
Alors oui, mais nous on essaye d'appréhender les conséquences qu'aurait la maladie si on la laissait faire sur la qualité de vie du patient. Par exemple la douleur, une maladie hématologique par exemple, je prends un exemple, c'est plus parlant des fois, qui créerait à terme beaucoup d'infections, beaucoup de soins techniques d'antibiothérapie par voie veineuse, de la radiothérapie parce qu'il y a des lésions osseuses. On peut se poser la question que si le traitement, par exemple, c'est un traitement oral qui arrive à endiguer la maladie, on sait bien qu'on ne l'enlèvera pas, on n'est pas ambitieux, permettrait encore un parcours avec une qualité de vie améliorée. La question serait, je soigne, mais le patient partira-t-il avec sa maladie ou partira-t-il de sa maladie ou des conséquences de cette maladie? C'est ça la différence. On se rapproche un peu du chronique, en réalité, des maladies chroniques. Donc, la question à se poser, pour des patients dont l'entendement est altéré, ben, peut-être que déjà la vie des aidants ou de l'environnement, du médecin traitant aussi, bien sûr, mais quand même, on évalue les patients sur divers domaines pour voir ce qu'on peut leur apporter pour améliorer cette qualité de vie au quotidien.
Et notamment, voilà, le bénéfice qu'ils vont tirer d'un traitement.
C'est toujours un bénéfice-risque,
ouais,
toujours.
C'est ça.
En oncogériatrie, par exemple, on mesure toujours la balance bénéfice-risque. Je n'ai pas d'idée là, de patient du service ou dans le patient sur le suivi où ça n'ait pas été pesé. Très honnêtement.
Pardon, vous devez légalement le faire. Donc,
oui.
Donc ça va, tout va bien.
Ça va, tout va bien, c'est pour vous rassurer. Vous avez raison de le faire.
Je voulais juste une précision, c'est parce que comme cette démarche, cette évaluation prend souvent 1h30 de temps. C'est pour ça qu'il y a des critères de sélection où quand le patient veut pas ou ne sait pas, il s'en remet à, on a besoin de cette évaluation qui s'appelle une évaluation gériatrique avisée, oncologique par exemple, et qui reprend tous les domaines du patient, le familial, le social, le fonctionnel, la thymie, le cognitif, qui nous amène à penser que le patient est robuste, fragile ou dépendant, et qui permet d'adapter souvent le soin ou ce qu'on en attend pour améliorer sa qualité de vie et pas le précipiter.
Et alors c'est une autre question dans ce contexte du refus de soins, mais ça a sans doute un impact sur les soignants, c'est-à-dire que si le soignant respecte le refus ou s'il pratique un soin malgré le refus, enfin, quelles que soient les circonstances qu'on a évoquées ensemble, est-ce que ces soignants peuvent se sentir maltraitants ou est-ce qu'ils peuvent se sentir défaillants ou est-ce qu'ils peuvent avoir le sentiment, parce que la personne refuse, qu'ils n'ont pas suffisamment fait, par exemple, ils peuvent s'en vouloir ? Tout simplement.
Ça peut être un sentiment d'échec, parce que je le redis, la formation peut-être ne nous pointe pas assez du doigt le fait de s'ouvrir à l'autre et d'accepter la décision de l'autre. On est dans une vitesse, je pense, une société aussi qui va à toute vitesse aujourd'hui, il faut qu'un problème arrive, il soit réglé. Si on ne se pose pas de secondes ou si on n'a pas dans des équipes des éléments régulateurs qui vous permettent de se poser, de re-réfléchir, c'est préjudiciable aux patients. Ce qu'il ne faut pas oublier, je dirais, c'est que accompagner le patient qui refuse un soin, cet accompagnement, c'est aussi du soin.
Oui, voilà, c'est ce que vous suggériez tout à l'heure. Et c'est pas forcément l'acte technique,
non,
le soin.
Dans les diagnostics infirmiers, il y a beaucoup de diagnostics qui portent sur cette qualité-là. La relation d'aide, des choses comme ça qui existent. Et on se doit de rechercher des alternatives aussi et de se dire, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain, il a le droit de changer d'avis.
Oui.
Et on le reprendra en charge. Un patient qui est suivi chez nous et qui veut aller ailleurs, bien sûr qu'il doit aller ailleurs. Bien sûr. Mais si dans un mois ou deux, il change d'avis, on se doit et il faut l'assurer vraiment du fait qu'il pourra le faire et en toute honnêteté. Je pense que c'est très important pour les patients. Je crois que d'avoir le choix, très souvent, emporte l'adhésion aux soins. Parce que j'ai le choix. Moi, je précise toujours qu'on peut commencer un traitement et qu'on n'est pas obligé de le terminer. Et que ce n'est pas parce qu'on a un cancer avec une chimiothérapie qu'on a commencé les cycles qu'on doit aller au bout. On se doit d'expliquer à combien de cycles on estime avoir un bénéfice, mais si avant, pendant ou après, il ne veut pas, c'est un droit.
Oui, il faut arriver à vivre ça du côté soignant d'une manière qui soit apaisée.
Je crois qu'il n'y a qu'une seule phrase. Ce qui est bon pour moi est-il bon pour l'autre? Ce qui est bon pour l'autre n'est peut-être pas bon pour moi.
Sophie Guglielmoni, en tant que psychologue, vous intervenez auprès de mineurs non accompagnés pour leur apporter un soin d'accompagnement visant les traumatismes qui les ont marqués au cours de leur parcours migratoire, ce qui est quand même une situation très complexe et qui... c'est un travail qui s'appuie particulièrement sur la parole, c'est ce que j'en comprends. Et la particularité de la psychothérapie, c'est justement que Bah, c'est quelque chose qui est proposé, mais vous ne pouvez pas forcer la parole. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une situation de soins imposés? C'est-à-dire que un mineur non accompagné doit avoir ce type de consultation? Et est-ce qu'il peut y avoir une tendance à insister de la part du soignant, c'est-à-dire si le mineur refuse, à revenir à la charge et essayer finalement de le pousser à s'exprimer?
Oui, je pense que c'est une question fondamentale. Est-ce que le désir du travailleur social qui va orienter vers les soins, ou parfois de la psychologue quand le jeune accepte de venir à la rencontre, ça ne veut pas dire qu'il accepte de revenir après.
D'être au rendez-vous, quoi.
Exactement. Ouais. Effectivement, est-ce que le désir du soignant ou de l'accompagnant excède le désir du patient? C'est cette question qu'il faut se poser. Mm-hmm. Parce que la parole, effectivement, ça ne se force pas. Et surtout dans un contexte de traumatisme, quand une personne arrive à verbaliser son vécu, c'est que déjà, elle a un petit peu avancé finalement dans la résolution de son traumatisme. Donc effectivement, c'est une situation qui est extrêmement complexe parce qu'on est souvent face à un refus, à un refus de venir se confronter à un vécu qui est douloureux. Donc la mise en place de mécanismes d'évitement. Et l'accompagnant doit faire face à cette frustration qui est de constater on va dire une atteinte à l'autonomie, au bien-être de la personne. Pour autant, la personne ne veut pas. Mmh. Et parce qu'il y a l'idée que la confrontation à ce vécu douloureux va venir renforcer la souffrance. Donc effectivement, il faut absolument pouvoir dire à la personne et pouvoir surtout mesurer finalement là où elle en est. Et je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ce que vous souleviez, Gilles. Finalement, accompagner un refus de soins, c'est déjà commencer le soin, effectivement. Mmh. Parce que un travailleur social, par exemple, qui va essayer d'accompagner une personne vers le soin, lorsqu'elle le refuse, elle va rechercher des alternatives. Mmh. C'est-à-dire faire en sorte que la personne puisse au moins avoir des expériences de bien-être. Et ce qui est fondamental dans l'accompagnement du soin du psychotraumatisme, lorsqu'une personne est en refus de soin, c'est de pouvoir sécuriser le quotidien pour que les défenses qui viennent entraver l'adhésion aux soins, s'abaisse. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment de sécuriser le quotidien, d'amener la personne à avoir des expériences positives avec son environnement, être rassurée. Et à ce moment-là, parfois peut-être au bout de plusieurs mois, mais aussi parfois peut-être au bout de plusieurs années, la personne va se sentir suffisamment en confiance, un petit peu sereine aussi, pour pouvoir aborder le contenu de sa souffrance, le vécu douloureux. Donc finalement, l'accompagnement du refus de soins, c'est déjà en soi un refus de soins. Et je pense qu'il faut aussi désacraliser la place peut-être du psychologue ou du psychiatre, qui n'est pas le seul à apporter un soin. Je pense que c'est l'affaire de tous, de toutes les personnes qui sont autour, finalement.
Oui, tout cet accompagnement dans lequel j'entends deux éléments, c'est-à-dire on revient beaucoup sur la question du temps, qui est un facteur majeur de la prise de décision, de l'évolution dans la relation avec l'annonce de la maladie ou dans la proposition de soins même, parce que j'imagine qu'on est dans une même situation, c'est-à-dire on vous annonce une maladie hématologique ou on vous annonce que... le rendez-vous avec la psychologue, il implique de dire « vous avez un problème finalement auquel nous on veut vous venir en aide, mais vous n'avez rien exprimé ». Donc il y a tout cet aspect-là du temps donc, qui se déroule dans le cadre d'un accompagnement. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de modestie dans vos réponses, c'est-à-dire de dire on n'est pas, en tant que soignant, on n'est pas... maître de la situation, mais on est à l'écoute finalement de ce que va exprimer le patient.
C'est la question de la relation de pouvoir que pourrait éventuellement conférer le statut de soignant. Mmh. C'est la problématique finalement à laquelle on peut être confronté. C'est-à-dire que avoir l'impression qu'on peut aider un patient contre sa volonté, ça permet peut-être de contrer l'angoisse que pourrait susciter le sentiment d'impuissance. Mmh. Sauf que on est parfois amené à aller au rythme du patient et à accepter son refus, mais aussi notre insuffisance. Mmh. Et le constat de cette insuffisance et de cette impuissance, c'est aussi se confronter à sa propre vulnérabilité.
Et, oui.
Et ça, c'est difficile parce que c'est un petit peu tabou, finalement, dans les métiers, en tout cas du social et peut-être aussi du soin, de se dire qu'on peut être soi-même confronté à sa propre vulnérabilité tout en devant prendre soin de la vulnérabilité de l'autre.
Oui.
Et finalement, culturellement, c'est assez difficile de se décaler de cette relation de puissance, de, disons, envers le patient, mais c'est absolument nécessaire pour que puisse émerger sa position singulière.
Mmh. Il y a plusieurs situations qui peuvent permettre de réfléchir aux questions posées par le refus de soins. On a parlé tout à l'heure du refus de transfusion sanguine chez les témoins de Jéhovah. On a aussi la situation des personnes qui se suicident, est-ce qu'on doit ou pas les soigner, mais aussi le refus de la part des parents de la vaccination de leur enfant, par exemple. Les soignants sont partagés entre ce qu'ils pourraient faire, les moyens que leurs compétences leur permettent, la prévision de la dégradation de l'état du patient. Et plus globalement, sans doute, c'est ce qu'on évoquait un peu à l'instant, ce sentiment d'impuissance, voire de responsabilité devant ce refus. C'est-à-dire qu'on a la vision de ce que ça pourrait engendrer et on peut sentir qu'il n'y a pas de réception de l'autre côté. Et donc, ça peut générer ce sentiment de responsabilité. Tout ceci peut pousser un soignant à insister, c'est-à-dire à tenter de convaincre le patient. Est-ce que ça, en tant que soignant, c'est un sentiment que vous connaissez, cette tentation-là de convaincre la personne?
Oui, bien sûr. Je ne peux pas dire que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je pense que si j'étais filmé, si je me voyais, peut-être plus souvent que je ne le pense. Mm-hmm. C'est fort possible. En tout cas, j'aime bien toujours clore mes entretiens en reprécisant que ça, c'est mon point de vue et que je n'en voudrais pas du tout au patient. Ça, j'ai mis un point d'honneur à le dire s'il prend une décision différente de ce que moi j'évoque. On n'appréhende pas tous la maladie de la même manière, les conséquences et un hypothétique départ.
Mmh.
Des fois, ça me fait râler parce que je me dis... il y a le refus de soins, mais bon, j'ai vu un patient. Je peux prendre un cas clinique,
oui,
qui va être parlant. Je croise une dame qui a 90 ans, qui a très certainement un cancer du sein. Et puis, il a une biopsie, et puis c'est confirmé. Et puis, elle a 90 ans. Donc, le traitement optimal peut être chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, ce qui n'est pas rien.
Hein. Oui.
Une dame, si il n'y a pas de chirurgie, bon, on se dit, au vu de l'âge, des perspectives, une chirurgie peut-être résout le problème, mais un médecin n'est pas obligé de dire, elle a 85 à 90 ans, bon, on l'évalue, on la juge robuste, parce que l'âge n'est pas en soi une raison pour ne pas faire.
Mmh, mmh.
Et que peut-être la chirurgie est le meilleur moyen de lui laisser terminer ses jours sans que ce soit le cancer qui parle. Et je l'ai éprouvé plusieurs fois, donc c'est vrai que je suis un peu moins frileux de me dire « vous ne voulez pas », mais en tout cas, j'ai comme exemple des gens qui avaient la même pathologie, parce qu'il faut bien raisonner,
oui,
en pathologie identique, hein, et pas parler de choses qui n'ont rien à voir entre elles. Et cette patiente, en l'occurrence, a été opérée, et la chirurgie seule a suffi à endiguer la maladie. Et, donc... Ce qui était vrai il y a 20 ans n'est plus vrai peut-être aujourd'hui. Oui. Tout évolue, les techniques, les techniques sont plus courtes, plus légères, on fait des choses. Et le vouloir des fois convaincre, c'est compliqué, parce que si elle dit non, elle dit non. Après, on s'en remet à l'autre. Hein. Il y a le débat, le délabrement, l'image de soi qui n'est pas liée à l'âge. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent, que je ne peux peut-être pas comprendre, ou qui ne seront peut-être pas évoquées. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on pense soi de manière peut-être philosophique, le soin, pour arriver à se détacher un peu du terrain, pour prendre un peu de hauteur, pour se dire, allez... J'accepte l'autre tel qu'il est, avec ses décisions, et le bout de chemin que je fais avec lui, je le fais de la meilleure manière possible.
Est-ce qu'un soignant, Sophie Théron, qui peut-être se posera moins de questions, je ne sais pas si c'est le cas de tous les soignants, mais en tout cas qui va se dire il faut à tout prix que je convainque cette personne, est-ce qu'il a le droit de le faire ?
Bien, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi a changé. Au départ, la loi mentionnait que si... En cas de mise en danger, hein, en réalité, ce qui pose problème, c'est quand le refus, s'il y a refus et que ça met en danger la survie du patient.
Oui.
C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la loi Kouchner de 2002 avait quand même mentionné dans le texte que le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre d'accepter les soins indispensables. Aujourd'hui, ce dispositif est supprimé. Comme on l'a souligné, c'est dans ce cas-là la réitération du refus par la personne dans un délai raisonnable. Alors là aussi, il faut apprécier la question de la temporalité. Ce délai, il est prévu que la personne puisse faire appel à un autre membre du corps médical. Parce que parfois, avoir des informations par des personnes différentes, comme pour nous tous, hein, peut permettre de mieux accepter. Donc en fait, c'est ce que vient de souligner Gilles. Ce qu'il y a à faire, c'est l'importance du dialogue. C'est la réitération de l'information, c'est l'échange avec le patient pour essayer, sans lui mettre la pression, de lui faire mieux comprendre l'ensemble des enjeux. Et vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure aussi, Gilles, il y a cette histoire de jargon médical qui parfois fait peur aux patients. Certains mots qui sont employés qui vont le bloquer. Alors là, je ne suis pas non plus du tout psychologue, hein, mais qui peuvent lui faire très peur. Et donc, c'est toujours la qualité de l'information et de l'échange. En tout cas, aujourd'hui, dans les textes, il n'y a plus cette disposition qui permet au médecin de tout mettre en œuvre. Il ne doit plus tout mettre en œuvre pour tenter de le convaincre d'accepter. Il peut le faire, comme le disait Gilles, en fait. Hein, c'est la pratique à avoir, à mon sens.
C'est son appréciation,
finalement. C'est son appréciation. Ouais. Mais il n'y a pas de pression à avoir. Parce que là, s'il y a pression, pour le coup, il n'y a plus un consentement qui est libre.
Et oui.
Là, c'est le consentement qui est contraint. Et après, s'il est soigné contre son gré, le médecin peut éventuellement encourir une responsabilité au plan disciplinaire, ou s'il y a eu des conséquences dommageables, il faudra que le patient prouve, mais que le médecin est responsable de ses actes.
Merci beaucoup, Gilles Bourgade, Sophie Guglielmoni et Sophie Théron. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.